Avant d'écouter un nouvel épisode de Calcio et Pépé, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique Calcio et Pépé. C'est sur www.calcioepépé.shop et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien. Milan, Juve, Inter, Roma, Napoli, la sélection nationale, les grands joueurs des années 80, 90 et 2000. Et encore d'autres posters dédiés au football européen avec plusieurs clubs espagnols, allemands, anglais, français, Ligue 1, Ligue 2 et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Libero per il traversone pericoloso, amore! Orsic! Pirlo, ancora Pirlo, di tecco, tiro! Grosso!
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et Pépé, le podcast 100% foot italien. Je suis toujours en compagnie de Guillaume Maillard Pacini. Salut Guillaume!
Bonjour mon cher Johan Crochet, bonjour tout le monde.
Guillaume, aujourd'hui nous allons évoquer la belle saison de Bologne, actuelle quatrième de Serie A et donc dans la zone de qualification à la prochaine Ligue des Champions. On a pas mal de choses sur cette équipe de Bologne. On a évidemment l'entraîneur qui est beaucoup en lumière en ce moment. On a les joueurs, les dirigeants. On va aussi réfléchir un peu à quelles peuvent être les ambitions de cette équipe-là en fonction de sa place dans le panorama du football italien, de ce qui est mis en place. Donc il y a pas mal de petites choses à évoquer. Et puis un peu comme d'habitude, Guillaume, on va commencer par quelques chiffres pour mettre un petit peu de contexte. Donc Bologne, quatrième en Serie A, troisième meilleure défense, sixième meilleure attaque, 48 points en 26 journées. Donc finalement, t'es pas si loin des 2 points par match, ce qui est quand même assez incroyable. Et dernière petite stat qui est assez marquante quand même, je trouve, une seule défaite face au club du top 6, et c'était contre l'AC Milan en tout début de saison.
Donc c'était la toute première journée.
Donc depuis cette première journée, pas de défaite contre les équipes du top 6, sachant qu'ils vont dans les dernières journées de championnat. Ils auront 2 gros matchs notamment et ça va être intéressant de voir ce qu'ils pourront faire à ce moment-là, mon cher Guillaume.
Et aussi, ouais, ils ont éliminé l'Inter en Coupe d'Italie, hein. Faut le rappeler.
Ouais. Ils avaient alors été malheureusement, ils ne sont pas allés beaucoup plus loin puisqu'en quart, ils ont été éliminés par la Fiorentina au tir au but, si je ne dis pas de bêtises.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est vrai que c'était aussi en prolongation à San Siro.
C'était quand même marquant ouais, à ce moment-là de la saison. C'était assez, parce que l'Inter, bon, on a vu le rouleau compresseur que c'est, mais c'était quand même, voilà, l'Inter, on le sait, en Coupe d'Italie, avec Inzaghi, ça a toujours été un peu sa compétition aussi, et les voir sortir à ce stade-là de la compétition par Bologne à domicile en prolongation, disons que c'était déjà une surprise à l'époque de la part de Bologne, de Thiago Motta.
Guillaume, est-ce qu'on commencerait pas par Thiago Motta? Parce qu'évidemment...
C'est le nom un peu qui fait parler, donc je pense que les auditeurs ont envie d'en parler, ont envie d'entendre ce qu'on a à dire sur Motta. Donc allez, commençons par la fogaccia, allez, comme ça.
Le premier truc à dire, c'est que c'est sa deuxième saison à Bologne. La première absolument complète, puisqu'il est arrivé en septembre sur la saison précédente. Et le premier point, vraiment, c'est que, tu sais, chaque saison, on a un peu notre équipe coup de cœur, qui n'est pas forcément d'ailleurs une grande équipe, qui peut l'être, mais pas forcément. Où, tu sais, tu regardes un peu le programme des différents matchs et tu te dis, ah là, là, faut que je sois devant la télé pour regarder ce match-là de telle équipe. Parce que le jeu me plaît, parce qu'il y a des joueurs qui me plaisent, etc. Et on, hein, au fur et à mesure des années, Guillaume, on a eu le Sassuolo de Zerbi, on a eu
Bien
l'Atalanta
sûr.
de Gasperini, on a eu le Milan de Pioli, on a eu
Le
le
Napoli de
Napoli,
Spalletti,
évidemment, on avait eu celui de Sarri juste avant. Et là, on a quand même un certain plaisir à suivre ces matchs, hein, Guillaume, de Bologne.
écoute, c'est un jeu proactif, c'est un jeu plaisant, c'est une équipe qui est très hybride. On parlera des joueurs ensuite, mais on va dire qu'ils sont pas cantonnés à un seul rôle. Je conseille à tout le monde l'interview qu'a fait Joshua Zirkzee, qui est aussi la révélation dans l'équipe révélation Johan cette saison,
Ouais.
qui a très bien parlé de Mota, où il disait que c'était quelqu'un qui dialoguait beaucoup avec les joueurs, qui parlait beaucoup, qui dialoguait, qui expliquait clairement ce qu'il voulait. Mais il y a une certaine liberté aussi. Et c'est vrai que Zirkzee, voilà, c'est aussi un artiste. Moi, c'est comme ça qu'il se définit. Et c'est vrai que Mota accorde cette liberté à ses joueurs, ce qui permet aussi de, voilà, quand t'es joueur justement, ça te permet, voilà, de d'avoir cette créativité que t'auras peut-être pas avec un entraîneur qui te cadenasserait plus. Donc c'est vrai que c'est vraiment une équipe. Tous les week-ends, tu vois, Johan, ça trahit pas. Tous les week-ends, je regarde quand Bologne joue pour de vrai. C'est vraiment toujours un plaisir. Là, j'en ai vendredi soir, j'étais devant ma télé vendredi soir. Et aussi, Johan, tu vois, preuve que, alors, Bologne, on peut quand même le dire en amont, c'est quand même un grand club d'Italie.
Oui.
Ça a toujours été. Alors, évidemment, ces dernières années, ces dernières décennies, c'était plus compliqué, mais on parle quand même d'un très grand club dans l'histoire de la Serie A. Mais tu vois, quelque chose qui ne trahit pas non plus, Johan, c'est que les supporters des autres clubs, alors, à part l'Inter qui est très loin au classement, mais disons, que ce soit la Juve, l'AC Milan, la Roma, la Lazio, bah eux aussi, mine de rien, regardent les matchs de Bologne parce qu'ils espèrent le faux pas, parce que Bologne, ouais, aujourd'hui, c'est clairement un candidat à la Ligue des Champions. Et forcément, c'est quand tu rentres dans ce rang-là, un peu de l'équipe, bah voilà, que t'espères qu'elle va faire quelques points, c'est aussi que t'es craint par tes adversaires. Et quand on voit tu l'as dit, le rendement de cette équipe, le jeu qu'elle produit, en Italie, honnêtement. À part l'Inter de Simone Inzaghi, quand même, le niveau de jeu de Bologne, on peut clairement le mettre dans le top 3 de la saison, de cette saison-là. Donc vraiment, en fait, c'est une alchimie. Et on parlera ensuite de tous les acteurs, même les dirigeants et évidemment des joueurs. Mais c'est vraiment une équipe, ben voilà, qui a un coup de cœur évident pour nous deux. Et tu l'as dit, c'est notamment grâce à Thiago Motta, et je vais te laisser la parole là-dessus, mais aujourd'hui, Thiago Motta, pour ceux qui n'ont pas forcément comme nous accès à tout ce qui est presse italienne, radio et autres, aujourd'hui, Thiago Motta, Johan, c'est clairement l'entraîneur qui monte, qui avait fait un très bon boulot à Spezia, qui était parti après avoir arraché la montée pour des désaccords avec ses dirigeants de l'époque. Aujourd'hui, Thiago Motta, c'est clairement l'entraîneur qui monte. On en a parlé dans notre podcast précédent sur les entraîneurs, sur la valse qui pourrait se créer l'été prochain. Mais aujourd'hui, Thiago Motta, Johan, c'est vraiment l'entraîneur qui a une cote qui se confirme en Italie et même un peu en Europe.
Oui, et puis juste pour revenir sur Bologne, tu c'est bien que tu aies fait ce point-là sur le passé glorieux du club, parce que mine de rien, c'est quand même 7 Scudetti. Alors évidemment, le dernier date de 1964, donc on n'est pas sur une équipe qui, dans l'ère moderne du football, a gagné beaucoup de trophées. Mais néanmoins, ça compte. Il faut quand même se rendre compte justement que c'est simplement un Scudetto de moins que le Napoli, la Roma et la Lazio réunis. Donc, dans l'histoire du football italien, c'est clairement un club qui compte, et aussi parce que Bologne est une ville qui compte en Italie. C'est la 7e plus grande ville d'Italie. C'est une ville très étudiante déjà, avec un grand passé aussi. Donc, c'est important de bien situer le contexte de ce club-là. Et évidemment, Thiago Motta a réussi à s'inscrire dans ce que faisait déjà Bologne depuis quelques saisons, c'est-à-dire développer des jeunes, essayer de recruter de manière intelligente, mais ils ont ajouté une couche supplémentaire avec un expert là-dedans, on en reparlera tout à l'heure, qui a permis à Thiago Motta d'avoir des joueurs de grande qualité. Et ensuite, lui, son travail, c'est de réussir à, un, faire en sorte que tout le monde s'inscrive dans un collectif, dans un projet collectif en termes de jeu, deux, dans un projet collectif d'ambition sportive, et aussi de permettre à ces joueurs-là, parce que c'est la réalité aujourd'hui de Bologne, de, ok, considérer Bologne comme une étape pour beaucoup d'entre eux, mais de faire le maximum quand ils sont à Bologne pour être performants avec cette habitude et cette qualité qu'a Thiago Motta de marteler quotidiennement que, il faut toujours en faire plus, qu'il faut être très exigeant. Et tu vois, une analogie qu'on peut faire, par exemple, c'est ce qu'avait fait De Zerbi à Sassuolo. Dans une réalité différente, Sassuolo, c'est quasiment un patelin hein, par rapport à Bologne. Mais il y a moins de pression qu'à Bologne, encore que Bologne, c'est pas non plus la grosse pression, même si c'est en train de revenir un petit peu en dynamisant un peu l'environnement. Mais De Zerbi disait, moi, il n'y a pas de pression, donc il faut que ce soit moi qui la mette aux joueurs. Et en disant, ok, vous êtes là parce que vous estimez que ce club-là est parfait à l'instant T et vous espérez tous aller dans un plus grand club, mais pour ça, il va falloir être performant au quotidien. Et c'est ce qu'arrive à faire, je trouve, Thiago Motta à Bologne, qui n'est pas si simple que ça à faire, parce qu'on le voit aujourd'hui, Sassuolo. T'as des joueurs aussi qui sont arrivés, qui considèrent le club comme un tremplin, mais qui s'inscrivent pas dans un projet collectif, qui s'inscrivent plus dans une démarche individuelle. Et ça, Guillaume, je trouve que ça, évidemment, ça se voit sur le terrain et aussi dans les attitudes des joueurs sur le terrain, cette
Absolument.
volonté de week-end après week-end être performant sur la pelouse.
Absolument. Alors, pour revenir un peu sur ce que tu disais sur Bologne, on peut rappeler aussi, Johan, que Bologne, c'est la ville du grand Lucio Dalla, un grand chanteur italien. C'est la ville de Gianni Morandi aussi, chanteur aussi italien, de Cesare Cremonini, qui sont souvent au stade, qui sont quasiment tout le temps au stade. Donc, c'est une
Exactement.
ville aussi culturelle. Bologne en Italie, donc c'est vraiment une. Voilà, vous avez l'habitude avec nous ce mot piazza. Voilà, l'environnement, c'est un environnement très important, une piazza très importante en Italie. Et pour revenir sur ce que tu disais à l'instant sur moi, tu vois, j'ai vraiment l'impression de. Tu le vois, je trouve, dans les célébrations d'après-match. Tu sais, il y a vraiment quelque chose qui s'est créé avec les supporters dans le vestiaire. Et je prends un exemple tout bête. Regarde, par exemple, un joueur comme Alexis Salemakers, qui est arrivé de l'AC Milan quand même. L'été dernier, donc c'était quand même, j'ai pas envie de te dire une régression pour lui, mais c'était quand même une remise en jeu quand même. Il
Bien
quittait
sûr.
un club avec qui il avait été sacré champion d'Italie pour rejoindre un club qui n'était pas européen et voilà, qui est quand même une réalité moindre hein, que l'AC Milan en Italie. Et quand je vois à quel point il est impliqué, à quel point il est affecté quand l'équipe bah, voilà, a un faux pas ou à quel point il célèbre quand l'équipe gagne. Voilà, pour moi, c'est assez symbolique de l'ambiance. J'ai vraiment, tu sais, l'impression d'une épopée, un peu match après match, quand ils ont gagné à Rome alors qu'ils sont menés. Tu l'as dit, ils ont quasiment jamais perdu face aux grosses équipes. C'est aussi que tu es capable, dans certaines soirées, dans certains matchs, d'élever ton niveau. Ils vont faire nul contre l'Inter en championnat, ils font nul contre l'AC Milan récemment. C'est vraiment un club. Ils avaient fait un contre la Juve en début de saison. C'est vraiment une équipe et un club. Où quelque chose s'est créé cette saison grâce aussi à Thiago Motta, et on en parlera. Mais il y a vraiment une espèce d'étincelle dans cette équipe-là, et je pense vraiment que même voilà, s'il y aura quelques départs, probablement l'été prochain, alors on verra bien, et on pourra l'évoquer aussi, parce que ce sera forcément une question, même par rapport à Thiago Motta, par rapport on va dire, aux joueurs qui se révèlent comme Zirkzee par rapport au prochain mercato, mais. C'est certain qu'il y aura forcément un après parce que imagine et on l'espère pour Bologne, il termine, on va dire, dans les places européennes. Tu auras quand même créé quelque chose de très solide, une base sur laquelle vraiment construire dans les prochaines années. Et on pourrait être un peu, ouais, tu sais, sur un modèle un peu d'Atalanta. Et on parlera d'ailleurs du dirigeant aussi qui est à l'origine du projet Bergamasque. Mais en tout cas, voilà, on pourrait être sur quelque chose qui dure, pas seulement sur une épopée d'une saison. Mais vraiment, c'est quelque chose qui dure. Mais voilà, quand tu dis qu'il y a une implication, un état d'esprit collectif, c'est totalement ça. Quand tu vois un joueur comme Orsolini, par exemple, qui a toujours eu un peu du mal hein, récemment dans sa carrière, c'est un peu perdu. Cette saison, il est impliqué. Alors parfois, il est sur le banc, mais quand il rentre, il est décisif. Donc vraiment, on a un état d'esprit collectif, un état d'esprit au quotidien qui est vraiment quasiment irréprochable. Et je vous conseille de regarder les célébrations d'après-match, notamment à Rome, quand ils ont gagné contre la Lazio. On sent vraiment qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans cette équipe-là. Et aujourd'hui, vraiment, tu as la sensation qu'elle va aller au bout de son idée et de son rêve. Alors, son rêve, aujourd'hui, c'est même plus un rêve, c'est un objectif, clairement, la Ligue des Champions ou l'Europe. Mais clairement, voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et voilà, c'est certain que Bologne mériterait et mérite clairement aujourd'hui d'être dans le top 4 en Italie, le top 5. Peut-être si voilà, l'Italie arrive à arracher une cinquième place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
On a beaucoup évoqué le caractère et la personnalité de ces joueurs. On peut s'arrêter un instant aussi sur le jeu avec une identité qui est finalement assez claire. Ce que j'aime aussi et que je souligne aussi chez Inzaghi, Simone Inzaghi, ce que j'aime, c'est sa vision moderne du jeu dans ce qu'on appelle l'interprétation des différents postes. C'est-à-dire que le défenseur central n'est pas qu'un défenseur central, c'est aussi un regista en plus quand tu construis le jeu, donc un milieu devant la défense, une sorte de playmaker quand tu construis le jeu. Le latéral n'est pas qu'un latéral, c'est aussi une mezzala supplémentaire quand tu construis le jeu, donc un milieu relayeur supplémentaire quand tu construis le jeu. C'est que ton ailier peut être aussi numéro 9 à certains moments du match. Ton numéro 9 peut être aussi un numéro 10 en décrochant beaucoup et en le faisant participer au jeu. Et pour ça, il faut évidemment certaines typologies de joueurs. Mais je pense que ça se développe aussi, tu vois, un Zirkzee dont on parle évidemment beaucoup en Italie maintenant. Si on t'avait dit au début de la saison ou avant qu'il arrive à Bologne il y a bientôt 2 ans, 18 mois, qu'il serait ce type de joueur-là, je pense que pas grand monde ne l'aurait cru, en tout cas, ou pas mal de gens auraient dit il n'atteindra pas ce niveau-là, en tout cas, pour lui permettre d'être ce type de numéro 9-là, qui aide beaucoup défensivement, qui vient contre le jeu pour faire jouer les milieux de terrain, qui peut aussi prendre la profondeur, qui va à droite, qui va à gauche, qui se balade partout sur le terrain. Et donc, cette vision moderne de la compréhension des différents postes sur le terrain va tout à fait avec cette évolution du football, ce que fait aussi Simone Inzaghi, quand tu vois les rôles de Pavard, Bastoni, le rôle de Di Marco, le rôle de Mkhitaryan, etc., etc., de Çalhanoğlu. C'est des entraîneurs résolument modernes qui sont toujours en réflexion, et ça, c'est clair que Thiago Motta, lui, par sa culture déjà, et sa carrière de joueur, a connu des clubs où la réflexion était présente.
Et des entraîneurs.
Ouais. Et des entraîneurs aussi, avec des styles différents, ça c'est vrai. Il n'a pas joué à l'Inter comme il joue au Barça. Encore que, il faut pas résumer l'Inter au match retour contre le Barça sur le fameux triplé sous Mourinho. Mais il y avait des styles de jeu différents au Genoa, le culture différente, etc. En France aussi, en Ligue 1 évidemment. Et en tant qu'entraîneur, je trouve que il a aussi cette évolution de pas vouloir s'arrêter à je suis un ex grand joueur. Et ce que j'ai appris comme joueur va me suffire dans mon poste d'entraîneur. Je trouve on voit clairement cette réflexion-là. Et tu vois, ce qu'a fait Thiago Motta de Calafiori, par exemple, qui est un latéral gauche de formation. Et lui, il a su voir en lui d'autres qualités. Et il est devenu un très bon défenseur central, au point où certains te disent aujourd'hui, il faut qu'il soit à l'Euro avec l'équipe nationale. Mais ça, c'est aussi le travail du sélectionneur. C'est le travail, oui, du sélectionneur de le prendre à l'Euro, mais c'est surtout le travail de l'entraîneur au quotidien qui a su voir certaines qualités, appuyer dessus pour qu'il se conforme à ses attentes au poste de défenseur central. Et Guillaume, aujourd'hui, quand on voit Calafiori, on a l'impression qu'il a été formé à ce poste.
Totalement. Et en plus, pour Thiago Motta, Johan, tu as la reconnaissance même des autres entraîneurs. Rappelle-toi les propos de Gasperini. Alors, on parle beaucoup de l'école Gasperini, de ses élèves, entre guillemets, de ceux qu'il a élevés, des joueurs qu'il a eu qui sont devenus entraîneurs. Et Gasperini disait que Thiago Motta, c'était peut-être celui qui était le plus abouti encore, qui pourrait même dépasser, entre guillemets, le maître. Je me rappelle des propos d'Ivan Juric aussi, en du Torino, qui avait une grande reconnaissance envers Thiago Motta, où lui aussi est issu de l'école Gasperini, il disait non, mais Thiago Motta, il est largement, entre guillemets, au-dessus de moi. Donc, tu as aussi maintenant l'espèce de reconnaissance et de crainte aussi quand tu affrontes le Bologne ou les équipes de Thiago Motta. Parce que même à Spezia, alors, il a eu des difficultés avec les dirigeants pour X ou Y raison, mais il avait fait quand même un gros travail dans l'environnement qui était Spezia. Et aujourd'hui, à Bologne, pour pas paraphraser ce que tu disais sur les joueurs, mais Johan, combien de fois on a parlé, toi et moi, dans les podcasts, des entraîneurs qui peinaient parfois à faire progresser les joueurs.
Ouais.
Thiago Motta, t'es clairement sur un entraîneur qui voilà, qui parvient à extraire des choses que les joueurs même, comme disait Zirkzee, ne soupçonnaient même pas avoir. Ça veut dire qu'il élargit ta palette, il élargit ton champ d'action, il te permet de découvrir un autre football, et de voir les choses différemment. Et Calafiori, c'est probablement l'exemple le plus grand, parce que quand il arrive à Bologne, voilà, c'était quand même, ça restait un joueur, voilà, à polir, à former. Et aujourd'hui, voilà, en Italie, tout le monde en parle comme d'un possible futur sélectionné avec Luciano Spalletti en national. Et donc, t'as un entraîneur qui influe directement sur les bonnes performances de ses joueurs et qui élargit leur rayon et leur champ d'action. Donc, voilà, t'es sur un technicien au sens propre du terme. Et tu l'as dit très justement, moi, ce que j'aime aussi, c'est qu'il met à jour son fichier constamment. Tu sens que c'est quelqu'un qui ne se repose jamais. Alors, pour lui, ça va être fatigant. Tu es toujours recherché, tu toujours travailler. Mais même après les victoires, tu sens qu'il y a sur le match d'après. Même quand, alors je regarde souvent les après-matchs avec Thiago Motta, et il a beaucoup de compliments, évidemment, de la part des consultants sur Sky, sur DAZN, mais tu sens que ça le gêne un peu. Lui, il est déjà dans l'après, il dit non, non, mais c'est pas moi qui compte, c'est les joueurs. Quand tu as des roches sur son avenir, il dit non, non, mais on pense au présent, on pense pas du tout à l'été prochain, ni mon futur, et ni les joueurs, les joueurs, les joueurs, le club. Et tu sens vraiment que sa carrière pour lui, alors, personnellement, évidemment que, voilà, il va s'en occuper et ils sont probablement déjà au futur, mais en tout cas, de manière publique, il est vraiment concentré sur le présent et tu sens que c'est quelqu'un qui a envie de travailler constamment, quotidiennement. Et je pense que les joueurs aussi, ils apprécient de voir quelqu'un qui sans cesse se remet en question, se remet en cause et pense toujours au bien de son équipe, de son vestiaire et de ses joueurs.
On a commencé à l'évoquer, Guillaume. Il faut quand même s'arrêter un instant sur l'architecte de l'Atalanta des dernières années, Giovanni Sartori, expert dans le scouting, évidemment, qui avait été à la base hein, de beaucoup de recrues, de l'essentiel des recrues qui ont performé sous l'ère Gasperini. Évidemment, après, avec le travail de l'entraîneur, hein, c'est toujours une sorte de duo. Hein. Je te prends les bons joueurs, je réussis à les identifier et à toi ensuite de les développer. Quand on regarde cette équipe de Bologne, ce qui est assez fort aussi, c'est que finalement, des joueurs qui restent de, on va l'appeler l'ère avant Sartori, donc Sartori débarque en juin 2022, il n'en reste pas beaucoup. Et des joueurs qui sont des joueurs majeurs, bah encore moins. Donc on a évidemment Skorupski dans les buts parce que ça fait quand même quelques années qu'il est à Bologne. On a Orsolini, tu l'as dit tout à l'heure, qui n'est pas toujours titulaire, qui est globalement titulaire, mais avec Endoy. Endoy avait fait un gros début de saison et c'était un peu compliqué pour Orsolini de trouver sa place. On a Aebischer, qui est globalement assez titulaire, enfin, qui est même titulaire dans l'ensemble, hein, qui est arrivé juste avant. Et après, on a des joueurs de complément comme De Silvestri, qui est un peu là pour cimenter aussi le vestiaire. Mais sinon, quand on regarde, bah, Poch, Lucumi, Boykema, Christiansen, Ferguson, Moreau, Fabian, Zirkzee, qu'est-ce que j'oublie encore? Bah, Endoy, dont j'ai parlé, Selmayr, dont tu as parlé tout à l'heure. Tous ces joueurs-là sont arrivés avec Sartori. Et donc, les grandes réussites aussi de cette équipe de Bologne, c'est grâce au travail effectué par Sartori et ses hommes, sachant que quand il s'en va de l'Atalanta, notamment pour ne plus travailler avec Gasperini, parce que c'était très compliqué, et moi on me disait en interne que c'était même impossible qu'il soit à la même table à la cantine sur la fin de l'ère Sartori à Bergame. Donc il est parti avec l'essentiel de sa cellule de recrutement de Bergame, il les a emmenés à Bologne. Aujourd'hui, Guillaume,
Mais
on voit le fruit de son scouting.
tu sais, Ivan, dans tous les noms que tu as dit aujourd'hui, alors c'est vrai que maintenant tout le monde les connaît ou tout le monde peut se féliciter des matchs qu'ils font, mais il y a quasiment pas un mauvais joueur ou un raté. C'est des joueurs qui aujourd'hui performent tous. Alors, dans un collectif, comme on a dit en début de podcast, dans un collectif huilé qui fonctionne à la perfection, donc tu as un mécanisme déjà quand tu arrives et tu t'intègres parfaitement aussi grâce au boulot de Thiago Motta. Mais voilà, ce qui est dingue, c'est que dans toutes ces pioches-là, par quelques-unes, voilà, où on pourrait discuter, mais tu as quand même des joueurs qui aujourd'hui sont tous imposés en tant que titulaire. C'est comme un peu s'il avait démembré l'équipe d'avant pour en recomposer une nouvelle en gardant quelques composantes. Ici et là, tu as dit des Silvestri aujourd'hui. Il est surtout là pour cimenter un peu. C'est un peu le taulier du vestiaire, la vieille garde, pour aussi transmettre ce qu'est Bologne aux nouvelles recrues. Mais voilà, Sartori, c'est un nom qui peut-être à l'étranger ou même en France ne parle pas beaucoup. En Italie, c'est quelqu'un de très réputé pour ses méthodes, pour la manière dont il agit, dont l'énorme travail qu'il a là-bas. Hein, j'ai lu un papier récemment dans la Gazzetta qui racontait à quel point voilà, il compte pas ses heures et à quel point il compte aussi sur son équipe et son staff pour voilà pour c'est des heures et des heures accumulées à aller voir des joueurs, à la vidéo, à voilà, à avoir aussi du data. Enfin, c'est quelque chose de colossal à ce niveau-là,
Tu veux
mais
que je
ça
te donne une
marche.
petite anecdote, Guillaume, là-dessus?
Mais évidemment, dis-moi tout.
Il y a, je sais plus quand exactement, mais je discutais avec un scout et en fait, c'était là, je pense que c'était il y a 2 ans, quelque chose comme ça. La dernière saison en Ligue des Champions de l'Atalanta. Et il me dit, soir de Ligue des Champions, l'Atalanta joue à domicile, je ne me rappelle plus contre quel club. Et le scout me dit, c'est incroyable, je suis à Malmö pour surveiller un joueur. Et il y a Sartori qui est là. Et il me dit, en fait, plutôt que de profiter du travail qu'il a fait toutes ces années pour voir des matchs à domicile de Ligue des Champions de son club, non, non, lui, il est dans le nord de l'Europe, à Malmö, pour voir un joueur qui peut potentiellement l'intéresser dans les prochaines semaines, tu vois. Et c'est ça la méthode Sartori, c'est d'être toujours en éveil et de ne pas compter ses heures effectivement de travail sur le scouting et
Et
le
c'est quelqu'un
recrutement des
qui
joueurs.
adore ça en plus,
Ouais.
découvrir. Alors tu sais, dans l'idée, mais un peu plus ancien, voilà, dans les méthodes, si tu te rappelles Walter Sabatini qui adorait aussi, tu sais, aller chercher des joueurs ici et là, surtout voilà en Argentine, les Pastore et j'en passe. Mais voilà, je pense que c'est vraiment une espèce de passion chez lui qui est devenue un travail. Et voilà, l'anecdote est symbolique parce que même lui, je pense toujours, toi, on parlait tout à l'heure de Thiago Motta dans l'après. Je pense que Sartori aussi, tu vois, c'est pas quelqu'un qui va se reposer ou qui va se dire, bon, bah, allez, j'ai fait mon travail, maintenant je peux prendre tant de jours de congé ou tant de jours de vacances. C'est quelqu'un qui est toujours, voilà, dans la recherche, dans le signalement. Je pense qu'il est beaucoup à l'écoute aussi de ce qu'on lui dit. Après, il va vérifier aussi voilà, par ses propres yeux. Donc, voilà, en fait, le fait même qu'on parle de la méthode Sartori, c'est-à-dire la dimension que lui a pris en Italie. On va dire dans le scouting et même dans le système des dirigeants, parce que voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est très reconnu par ses méthodes. Et quand il était parti de l'Atalanta, Johan, on le disait, hein, c'est quand même une grosse perte, hein, pour la DA, parce que la DA, c'est évidemment Gasperini et ça l'est toujours, mais l'artificier aussi de tout ça, de l'Atalanta, telle qu'on la connaît aujourd'hui à la base, c'est le travail de Giovanni Sartori. Donc quand Bologne l'a pris, voilà, c'était une garantie de résultats à moyen terme. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est probablement difficilement applicable dans un très grand club ou encore aujourd'hui, tu pourrais quand même miser, voilà, quand tu as confirmation du travail que Sartori peut faire, je pense que tu peux tabler sur 2, 3 ans pour avoir, on va dire, du rendu sur certains joueurs. Mais tu vois, Bologne, Atalanta, pourquoi pas Fiorentina, c'est des clubs où tu as le temps aussi d'agir, tu as le temps d'aller chercher, c'est des places un peu importantes pour des joueurs, voilà, comme Zirkzee, hein, qui vient quand même du Bayern. Bah voilà, Bologne, ça reste quand même un club qui a sa réputation en Italie et même en Europe. Donc voilà, c'est cette espèce d'entre-deux qui permet aussi à Sartori de travailler dans une espèce de tranquillité où lui voilà, peut appliquer cette méthode-là. Et aujourd'hui, voilà, on parle beaucoup de Thiago Motta parce que forcément, à l'étranger, c'est aussi le nom qui fait parler parce que c'est l'entraîneur qui monte. Mais Sartori, voilà, c'est l'artificier de ce Bologne-là et du fait que ça deviendra probablement, sauf cataclysme, Johan, une saison historique à l'issue de cet exercice.
Mais je pensais, quand je l'ai vu signer à Bologne, je pensais le voir dans un club plus important, tu vois, vu le travail qui avait été effectué à l'Atalanta. Et effectivement, je m'étais dit, bon, il n'y a que Bologne, il n'y avait pas que Bologne, mais ça a été aussi un de ses choix de trouver cette réalité-là
qu'il oublie.
Et je pense que c'est un club qui lui va bien finalement, comme le Bergame lui allait bien avant. Et d'ailleurs, précisons aussi quand même que Motta, c'est aussi le choix de Sartori. Hein.
Oui. Il faut aussi un entraîneur qui soit adéquat à tes idées. Parce que,
bien sûr.
J'ai envie de te dire,
si tu prends des jeunes joueurs avec quelqu'un qui ne pense qu'aux résultats et qui a gagné tout de suite, ça ne va pas.
Si tu mets Allegri à Bologne, si tu veux, dans l'idée, ça va être un peu compliqué de les faire évoluer. Mais c'est vrai que Motta, pour le coup, déjà l'idée, c'était un profil qui collait parfaitement. Alors, au-delà de, voilà, on pouvait pas se douter que ça irait à ce point-là avec aussi peu de temps, parce que ça fait, comme tu l'as dit, c'est sa première saison complète. Mais c'est vrai que dans le profil, en tout cas, l'idée était plutôt bonne pour les idées qu'avait Sartori.
Et il avait envoyé un de ses collaborateurs voir des entraînements de la Spezia pour voir un peu comment il travaillait même à l'entraînement. C'est pour dire aussi le degré de préparation de Sartori. Sur le scouting, c'est pareil, il y a beaucoup de travail en amont qui est effectué. Et ben, c'est la même chose aussi du côté des entraîneurs. Donc, c'était important de faire ce passage sur.
En fait, chaque détail compte. Chaque détail compte. Rien n'est laissé à la légère, que ce soit entraîneur, joueur. Et même au niveau des joueurs, il y a même la personnalité. Hein. C'est quelque chose qu'ils regardent beaucoup parce qu'on le sait, tu peux avoir le talent. Mais après, il y a aussi la personnalité derrière. Et tu vois, Zirkzee qui a eu du mal à éclore. Aujourd'hui, c'est un joueur qui devient de plus en plus complet et même au niveau justement de la personnalité qu'il est en train d'acquérir à Bologne.
Guillaume, on va parler de deux joueurs chacun. On va choisir deux joueurs, on va faire assez rapide, qui nous plaisent particulièrement ou qu'on trouve important dans le schéma de Thiago Motta. Je te laisse en choisir un premier et puis on fait comme ça chacun notre tour.
Bah, écoute, évidemment Zirkzee parce que lui l'a dit justement dans cet entretien à la République et je trouve que c'est très bien résumé. Alors c'est un 9,5, lui-même le dit, c'est pas voilà encore un vrai bombe comme on entend en Italie, mais tu vois Ivan, c'est vraiment un artiste. C'est quelqu'un quand il prend le ballon. Ouais, donc quand tu vas dans le stade, t'as toujours tendance à te lever, et ça c'est le genre de joueur qui te fait lever parce que c'est quelqu'un qui a une création dingue, c'est quelqu'un qui imagine, qui pense, qui réfléchit, qui fera le geste auquel tu t'attends pas. Et voilà, on attendait qu'il passe ce step, cette étape justement parce que le talent, on l'avait vu, et si le Bayern l'avait pris, voilà, c'est que forcément voulait miser sur lui, c'est qu'il y avait forcément quelque chose dans ce joueur là. Mais aujourd'hui, on a un joueur, comme je le disais, qui devient complet, qui est régulier. Ça, c'est aussi qui lui manquait, c'est la régularité au fil des matchs, et impliqué. Mais justement, il y a dans ce collectif qui l'aide parfaitement. Parce que si tu mets Zirkzee dans un collectif qui fonctionne pas, je ne suis pas certain qu'il fait la saison qu'il fait aujourd'hui. Il y a tous ses coéquipiers, comme lui le dit. Sa saison, c'est aussi grâce à eux. Mais c'est vrai que le joueur, intrinsèquement parlant, ses qualités, voilà, pour faire rapidement, c'est un artiste. Lui se définit comme ça et je trouve que c'est la meilleure définition du joueur qu'il est. Attention l'été prochain, je pense qu'il y aura beaucoup 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 de clubs, Johan, qui seront intéressés. On espère, je pense, tous les deux qu'il restera en Italie.
Je vais aller de mon côté sur le capitaine Ferguson, milieu de terrain, milieu tout terrain même déjà plutôt, capable de jouer 10 ou un cran plus bas, en double pivot ou un cran plus haut, parfois même sur le côté gauche. C'est un joueur très intéressant parce qu'il allie évidemment des qualités techniques importantes pour jouer dans ce système de jeu-là de Thiago Motta, des qualités aussi de leadership. C'est pas pour rien que Motta a fini par lui donner le brassard de capitaine, toujours à rameuter un petit peu les joueurs, les encourager, les replacer, donner de la voix, guider les autres, et aussi une capacité physique à multiplier les courses vers son propre but, vers le but adverse. Donc il est très utile dans les deux phases de jeu avec et sans ballon. et c'est devenu un milieu tout-terrain, comme il en existe finalement pas tant que ça en Serie A aujourd'hui. Et dans ce type de milieu de terrain-là, je pense qu'on le met facilement top 4, top 5 sans problème, en fermant les yeux même quasiment. C'est vraiment un joueur qui a pris une très grosse dimension, qui s'est vraiment imposé. Vu son profil, je pense que la Première Ligue va très rapidement se mettre sur lui parce qu'il a toutes les qualités aussi pour en faire un milieu de terrain type de Première Ligue. Et Mota a réussi à transformer ce joueur qu'on ne connaissait pas, qu'on connaissait peu, en un joueur majeur de Serie A aujourd'hui, et ça montre bien l'étendue du travail de Mota. Guillaume, est-ce que tu en as un deuxième?
Oui, écoute, Johan, tu parlais d'un joueur qu'on connaissait pas ou peu. Ben, un joueur qu'on connaît, c'est quand même Raymond Freuler, qui avait été à l'Atalante. Et je trouve que dans ce système-là, dans ce collectif-là, il a un rôle capital, évidemment. Alors, il a 31 ans, hein, c'est déjà un joueur qui est formé, c'est un joueur qui est plus à polir, mais c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience, qui a été à l'Atalante. Donc, voilà, qui, dans l'idée, quand même on va dire des dogmes de Thiago Motta, voilà, ça colle assez bien, donc il n'y avait pas besoin non plus d'une grande formation de ses idées, et je trouve vraiment qu'il a un rôle central, c'est-à-dire que c'est lui, l'espèce de plateforme aussi qui, voilà, qui dicte le tempo, qui ratisse beaucoup de ballons, qui est intelligent dans les déplacements, et c'est important, Johan, d'en avoir dans des équipes comme ça, hein, dans ces réalités-là, et même dans ce vestiaire, parce que voilà. Ces dernières années, tu as quand même une équipe qui était composée, tu l'as bien rappelé tout à l'heure. Donc d'avoir aussi voilà un joueur, une espèce de référence sur laquelle t'appuyer sur le terrain en dehors, c'est hyper important. Voilà, même des divers articles que j'ai pu lire sur lui et dans les quotidiens de Bologne, c'est quand même un joueur qui donne beaucoup de conseils, qui parle beaucoup à ses coéquipiers, qui n'hésite pas à prendre la parole même sur le terrain. Donc voilà, je trouve ça hyper important, ce rôle aussi un peu de l'ombre. Dans des saisons comme ça, c'est capital d'avoir un joueur comme Freuler. Donc je tenais, voilà, à lui faire quand même mon petit coup de chapeau.
Et mine de rien, 63 sélections déjà avec la Nati, la sélection suisse.
Eh oui,
Donc,
eh
quand on
oui.
parle de joueur d'expérience qui peut aussi guider un peu le groupe, il est évidemment très important. Et moi, je vais partir en deuxième joueur sur Sam Boykema, défenseur central qui vient de l'AZ Alkmaar. C'était pas le joueur le plus flashy de l'AZ Alkmaar, mais c'est un joueur extrêmement intelligent, intéressant, qui est toujours dans la lecture, le contrôle, l'analyse. Et ça va très très bien à cette équipe-là, une équipe qui réfléchit toujours quand elle est sur le terrain. Et lui, c'est vraiment le premier joueur à amorcer les actions et à comprendre quand il faut accélérer, pas accélérer, quand il faut jouer horizontal ou vertical, quand il faut avancer ballon au pied, quand il faut à l'inverse profiter de ce que fait le milieu de terrain pour orienter le jeu d'une autre manière. C'est vraiment un joueur assez cérébral qui, sur les déplacements aussi, quand Bologne n'a pas le ballon, comprend vraiment bien les situations. Donc c'est pas le joueur non plus. Il n'était pas le plus flashy, pardon, à l'AZ Alkmaar. Il le sera pas non plus à Bologne. Mais c'est un joueur qui est extrêmement important comme profil de joueur dans cette équipe de Bologne, et qui est un profil différent, hein, des autres joueurs. Calafiori est un autre type de joueur. Lukumi est un autre type de joueur. C'est des bons joueurs tout cela. Hein. C'est vraiment, ils sont devenus des bons joueurs. Mais Boykoma a un tel profil que pour moi, je le vois comme indispensable. Et d'ailleurs, c'est un joueur qui ne serait pas forcément indispensable avec d'autres types d'entraîneurs et d'autres styles de jeu. Ainsi, on verra comment ça se
C'est
passera
vrai.
avec Thiago Motta, mais en tout cas, avec lui, c'est un joueur capital, c'est clair. Guillaume, dernier élément, tout dernier, tout dernier. Le modèle, c'est quoi, l'Atalanta?
Bah, dans l'idée, il y a quand même beaucoup de ressemblances, surtout quand tu as la pièce maîtresse comme Sartori qui est à la tête de tout ça. Dans l'idée, c'est un peu ça. Et surtout que l'Atalanta, quand même, Johan, rappelons-nous, elle est allée très loin en Ligue des Champions. En quart de finale face au PSG. Il pense que dans l'idée, le modèle, c'est un peu ça. Voilà, miser sur les jeunes, aller chercher des jeunes joueurs aussi. Bah voilà, faut pas se mentir, faire des plus-values, hein.
Bien sûr.
Je pense que Zirkzee, ça restera un joueur sur lequel tu peux espérer une petite quarantaine de millions d'euros, notamment vu la
Sachant que
concurrence. Donc,
50% iront au Bayern.
ouais, totalement. Tu fais bien de le rappeler, mais je pense que l'idée, oui, c'est la talente.
Et je le redis, hein, septième ville d'Italie. Donc c'est pas rien quand on parle de
Ouais.
la réalité de Bologne. Hein.
Et dernière chose, Johan, que je voulais rajouter, tu sais, j'ai beaucoup de questions, même au boulot, chez Eurosport, on me demande, mais est-ce que Thiago Motta a la personnalité pour aller dans un gros vestiaire, tu sais, aller, je sais pas, plus
Si on
tard au
parle de
PSG?
personnalité, je pense que Thiago Motta, il est pas
C'est
mal
ce
quand
que je
même.
répondais, c'est ce que je répondais. Alors, forcément, tu as quand même une part d'inconnu parce que, voilà, il découvrirait un gros vestiaire, que ce soit à la Juve, à l'AC Milan ou ailleurs. Mais on l'a vu aussi en tant qu'entraîneur. Alors, en tant que joueur, on le connaissait tous. Mais en tant qu'entraîneur, Johan, il a aussi su prendre des grosses décisions. Et pour lui, rappelle-toi, Spezia, il arrache la montée et il claque quand même la porte, alors qu'il lui reste un contrat. Et c'est un joueur qui n'hésite pas à dire ce qu'il pense, à faire des rotations assez fortes. Orsolini, on en parlait, c'est un joueur qui, quand il n'avait pas le niveau adéquat, allait sur le banc. Donc, Mota n'hésite pas à trancher dans le vif, à écarter les joueurs quand il le faut. Donc voilà, en tant que joueur, c'est quelqu'un, évidemment, c'est un taulier, un sénateur, mais en tant qu'entraîneur, il a déjà prouvé, je pense, voilà, de savoir gérer. Alors, comme je le dis, il y aura forcément une petite part d'inconnu, mais j'ai quand même peu de doutes sur la personnalité, Johan, de Thiago Motta.
Bon, ça c'est clair. Et Thiago Motta, il faut quand même se dire qu'après l'excellent travail d'Italiano à Spezia, il avait réussi à maintenir le club lui aussi dans des conditions qui n'étaient pas faciles, avec un recrutement qui n'était pas simple non plus.
C'est vrai.
Donc c'est vrai que c'est à
Mais
mettre
reste ou
très haut.
restera pas, Johan Alain?
Je pense que c'est un des cas les plus difficiles parce que tu vois, il y avait encore un papier ce matin dans la Gazzetta.
Ouais, exactement. C'est pour ça que je te demande
Ou
aussi.
même
Hein.
eux, c'était pas clair du tout, tu vois.
Non. On rappelle fin contrat 2024, hein, juin 2024. Hein.
Ouais, mais il fera jamais ça une histoire
Ah bah
d'honneur,
non,
tu vois.
j'en doute pas, mais sur le
Donc,
papier, on sait qu'il y a des discussions jusqu'en
bien sûr.
2026. Est-ce que tu penses que ça dépend de
Mais
la
tu vois,
fin de
ils ont.
saison,
Bah
s'ils vont en
oui,
séance?
en partie, mais tu vois, il y a aussi eu. Je pense que Bologne lui a donné aussi les bons signaux au mois de janvier quand ils sont allés chercher des joueurs pour renforcer l'effectif. Et pour lui permettre de se dire, bah, vas-y, on croit en cette possibilité de se qualifier en Coupe
Plus de 20
d'Europe.
millions d'euros dépensés en janvier. Hein. Plus de
Ouais,
20 millions d'euros. Hein.
alors qu'ils auraient pu dire, bah, profitons-en, vendons un ou deux joueurs qui vont être demandés sur le marché des transferts, faisons plusieurs dizaines de millions d'euros et voilà, on fait tourner les comptes du club et puis voilà. Et en fait, c'est pas ça, c'est vraiment ambition sportive et ça colle bien à ce que voulait Motta. Donc,
Il faut rappeler que c'est Saputo, hein, qui est le
ouais.
président et qui est le grand patron de Bologne. Hein. Donc voilà, c'est aussi une entité.
Qui, selon la Gazzetta, se prend un peu au jeu, là, tu vois, avec les bons
Oui.
résultats. Donc, ça serait bien que ça enclenche aussi une dynamique.
Ah, mais
Tu
il y a...
vois,
Ah, ouais.
c'était un peu qu'un
Totalement.
club qui ronronnait avant, et là, tu as le sentiment que ça y est, il a fait bouger les choses, Thiago Motta, et ce club-là est en train de prendre une
Bah,
autre dimension sportive.
tu sens qu'il a réveillé le club, tu sais. C'est comme un peu un club, un grand club endormi. Et regarde le Dall'Ara, qui est déjà un magnifique stade, mais l'ambiance à chaque fin de match sur les musiques de Lucio Dalla, l'Anno che verrà, c'est incroyable, ça met des frissons, c'est très émouvant. Non, vraiment, il y a quelque chose qui s'est créé cette saison. Et comme je le disais, je pense qu'il voilà, il y a aussi la possibilité d'ouvrir un cycle, alors avec ou sans Motta, même plus tard, soit dans 1 ou 2 ans, avec d'autres coachs du profil là. Mais en tout cas, voilà, il y a. C'est une espèce de grand club endormi qui se réveille doucement grâce à toutes les composantes qu'on a dit. Et ultime chose assez drôle que je voulais rappeler, sache qu'il y a une pétition est en ligne pour faire rester, alors, Thiago Motta rebaptisé Tiamo Motta, donc je t'aime Motta, en partie de Motabo les autres. Pétition, quand même, qui a déjà recueilli, j'ai vérifié avant d'enregistrer, plus de 4000 signatures. Donc c'est pour te dire qu'il y a vraiment un engouement autour de Motta pour le faire rester. Et ne l'excluons pas, hein, parce qu'on parle des grands clubs, mais attention.
Ouais.
Et je pense que Motta, s'il prolonge, ce sera pas pour prolonger, pour dire non, mais comme ça au moins le club n'aura cherché personne et des mythes à Bologne. S'il s'engage et s'il signe une prolongation avec Bologne, comme le disait la Gazzetta ce matin, c'est pour rester à court ou moyen terme, donc encore 1 ou 2 saisons. Il prolongera pas pour mieux partir cet été. Donc attention au fait que Motta puisse aussi rester en fonction aussi de la fin de saison. Si il y a eu des champions. Je pense qu'il y aura une vraie possibilité de le garder.
Voilà qui boucle notre focus sur Bologne. N'hésitez pas à aller faire un tour sur calciopp.shop pour les affiches sur le football italien, mais pas que, il y en a beaucoup sur le football italien. Pas encore d'affiches sur Bologne, mais vous avez les principaux clubs italiens, la Serie A, l'équipe nationale et d'autres championnats également. Et n'oubliez pas les 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Autre plateforme où vous pouvez écouter les podcasts calciopp. Et nous, Guillaume, on se dit à très vite. pour un nouvel épisode du podcast Calcio et Pépé. Ciao, ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.